Bienvenue dans l'émission Loin des clichés, un podcast qui vous présente les histoires de vie des personnes accompagnées par l'association Le Mile. Dans chaque épisode, nous vous invitons à découvrir les galères, les défis, mais aussi les revanches sur la vie de parcours atypiques. L'association Le Mile a pour but de préserver et d'améliorer la santé des personnes présentant des conduites addictives, des maladies chroniques et d'accompagner aussi leur entourage.
Bonjour à tous, je m'appelle Mathilda, je suis apprentie éducatrice spécialisée à l'association Le Mail depuis plus d'un an et demi. J'interviens au CTR, donc le CTR c'est Centre Thérapeutique Résidentiel. C'est un hébergement pour adultes mixtes en situation d'addiction. Nous on vient travailler deux choses principalement, on travaille à un projet de soins au début, donc ça peut être par exemple un projet d'abstinence, voilà, il y a un projet aussi avec une psychologue. Et à côté de ça, on travaille tout ce qui est un peu réinsertion, donc tout ce qui est un projet de sortie. Donc généralement, on vient après une cure, on se tourne plus vers l'extérieur. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Élodie. Je te laisse te présenter.
Alors, je vais te faire un petit récap de mes consommations passées. J'ai commencé tôt, cigarettes, quelques mois après, c'était... fumer des joints, et très rapidement je passe au collège de douille.
T'as commencé à quel âge les consommations?
Fin collège, cigarette, et 2-3 mois après, je fumais des joints. 4-5 mois après, je ne pouvais plus me passer du collège de douille. Dès le réveil et le soir, c'était impensable pour moi de ne pas en avoir.
T'entends quoi par collège de douille?
En fait, on utilise une bouteille, ce que l'on peut appeler un bang. Et on met une quantité de tabac, okay, et une quantité de marijuana et on aspire tout ça d'un coup. En fait, le but, c'est d'augmenter l'effet recherché.
Ok.
Voilà, puis après, sans compter les drogues festives et l'alcool. Ensuite, à 19 ans, je suis accro à l'héroïne, donc je la prends seulement en sniff. À 22 ans... je prends un substitut délivré par un médecin parce que il y a des manques physiques en fait à l'arrêt de l'héroïne. C'est très difficile à gérer. Mais en même temps, malheureusement, je commence à m'injecter de la cocaïne.
Donc entre 19 ans et 22 ans, du coup, tu dis que tu as commencé à être dépendante de l'héroïne à 19 ans. Et donc, à 22 ans, tu as commencé un substitut. Du coup, tu voulais arrêter déjà entre 19 et 22 ans l'héroïne, c'est ça?
Non, en fait, je me satisfaisais plus parce que je suis revenue en France. Enfin, j'achetais ma drogue en France et en fait, il me fallait plusieurs grammes pour que j'aie un effet recherché. Donc, ça ne servait plus à rien. C'est pour ça, en fait, au début, que je me suis retournée vers la méthadone.
OK.
Mais l'effet, je voulais toujours... avoir de la défense, on va dire. C'est pour ça que je passais de drogue en drogue. J'en ai arrêté une, j'en commençais une autre. Et voilà, puis après, à 31 ans à peu près, je me suis dit, je vais me mettre à fumer la cocaïne. En pensant que c'était une évolution, en fait, que l'injection était pire.
Tu recherchais, en fait, un plus d'effet dans chaque... Tu recherchais quoi, du coup, dans ce changement de méthode
De méthode. En fait, je m'étais dit, il y a ceux qui prennent des traces, ceux qui fument et ceux qui s'injectent. Donc, je me suis dit, pour me réguler, je vais passer à la fumée. Mais je fumais et je m'injectais en même temps.
Ok.
Voilà pour...
pour ton parcours.
Pour le parcours de consommation.
Ok. Et du coup, tu as commencé quand, à peu près, du coup, tes démarches de soins?
Alors, au lycée, me rendant compte que je ne pouvais pas me passer de marijuana, si j'en avais pas, j'étais irritable, tout ça, donc je suis partie voir un addictologue, mais une fois, une psychologue, deux fois, des années après, je suis partie voir un hypnotiseur, une fois, donc tout était épisodique.
Okay, ouais.
Le vrai travail, je l'ai commencé à 32 ans, car je ne me supportais plus. Sous effet de la cocaïne, après injection, je rentrais dans des crises de paranoïa sévères et je ne pouvais plus me supporter. J'y arrivais pas seule. Et donc, j'allais dans les hôpitaux, je leur disais enfermez-moi. J'ai fait pareil deux fois chez mon médecin traitant. Donc c'est là que j'ai commencé via une cure qui était surtout voilà une cure de 2 mois. J'ai enchaîné par une cure de 3 mois. Je me suis fait virer au bout de 2 mois et demi parce que j'ai rechuté. Ensuite, je suis à 34 ans. Les cures pour moi n'étaient plus, c'était pas assez. J'avais besoin de quelque chose de plus englobant et de travailler beaucoup plus en profondeur. C'est pour ça que je me suis retournée vers une communauté thérapeutique.
Tu peux nous présenter ce que c'est une communauté thérapeutique ?
Alors, elles ont des fonctionnements différents. Celle dans laquelle je suis allée, je me suis retrouvée dans les bois et un peu coupée du monde, isolée. Donc on n'avait aucun contact avec l'extérieur. Personne ne pouvait venir nous rendre visite, on ne pouvait pas sortir. Et pareil au niveau du téléphone portable, on avait le droit au téléphone portable qu'une demi-heure le soir. Donc, et on a fait un gros travail d'introspection en fait, analyser le passé pour comprendre nos comportements actuels. Voilà, donc ça a été très 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 bénéfique. Et ensuite, je me suis retournée vers le centre thérapeutique dans lequel tu travailles pour préparer ma sortie. Là, ça me permet de reprendre contact avec la vie réelle, renouer des relations extérieures qui ne sont pas nuisibles. Donc via le sport, via les associations, me redécouvrir, voilà. Enfin,
c'est vrai que nous, ce qui est important au centre thérapeutique résidentiel, c'est que on va travailler vraiment l'extérieur. Du coup, c'est important que les personnes fassent un bout de parcours déjà avant, une cure ou comme toi, une communauté thérapeutique. Ça permet d'arriver chez nous et de voilà. Essayez d'imaginer l'extérieur pour vous, être en fait en semi-autonomie en fait chez nous.
Oui, surtout qu'il y a une espèce de sas de sécurité supplémentaire, c'est des studios oui. Que vous proposez pour vraiment devenir, on va dire, autonome.
Oui, on dispose de 2 studios, c'est des petites chambres hein, finalement, qui se situent vraiment à côté de la maison principale. Généralement, on peut le proposer déjà quand le projet colle avec la personne, quand la personne est en demande aussi d'une certaine autonomie. S'il y a un projet, par exemple, de logement derrière le CTR et que voilà, il y a quelques appréhensions, on peut aller vers des studios et on propose aussi un studio famille. Là où on peut rencontrer, donc les usagers peuvent voir leur famille le week-end, etc. Donc c'est vrai que ces lieux sont importants dans notre travail.
C'est important pour moi de me réinsérer doucement et sûrement tout en étant encore accompagnée parce qu'une fois seule, après de longs mois passés en communauté, être seule du jour au lendemain, il faut le travailler, je trouve.
Oui, t'as raison, ça fait un peu un saut dans le vide. Être seule.
Je sais pas, je l'ai pas encore fait.
On te le souhaite. Et dans tout ce parcours de soins que tu as eu, est-ce que ton entourage a été présent ?
Oui, mon entourage a été présent, très compréhensif au début. Non, j'ai vraiment eu un soutien de la part de ma famille, de mes amis. En revanche, étant donné qu'ils ne comprenaient pas trop la maladie, après une période d'abstinence, ils ne comprenaient pas les rechutes, en fait.
Je trouve ça bien que tu utilises le terme maladie pour l'addiction, parce que c'est vraiment une maladie et je trouve que dans la société, on peut l'oublier. Et c'est vrai que quand on a quelqu'un, du coup, qui est malade et qui a une addiction, c'est vrai que pour l'entourage, c'est compliqué. C'est aussi compliqué de la soutenir et cette personne-là, faire des démarches de soins sans être soutenue. C'est vrai qu'il y a ce rapport avec l'entourage qui est important et qui peut des fois poser soucis.
Ouais, moi j'ai une amie qui s'est mise en retrait, elle me soutenait beaucoup et elle est toujours là, mais j'ai pas trop de nouvelles. Et quand je lui parle de mes démarches, des fois elle s'est mise à pleurer. Donc je comprends que pour se protéger, certaines personnes se mettent en retrait, comme mon père, hein, j'ai eu 2 fois du chantage affectif. Je vivais avec une autre personne et ils se sont mis en accord. Et ils voulaient me faire des tests salivaires inopportuns.
D'accord.
Et s'il s'avérait positif, je disais, je repars en cure. Bon, Saint-Néparé, parce que j'ai trouvé la communauté. Et j'y suis allée de mon chef. Mais voilà, j'ai quand même eu du chantage affectif. Mon père m'a dit, j'arrêterai de te parler. Du Alors coup, c'est quelqu'un qui m'aime énormément.
Il y avait une sorte de pression familiale derrière ça.
Oui, et on me traitait de menteuse. En me disant, il m'a dit, oui, tu dis certaines choses et tu ne tiens pas tes paroles. Et j'ai dit, mais quand je dis que j'en prendrai plus, que j'en veux plus, je suis honnête.
Oui, sur le coup, tu le penses vraiment, mais c'est vrai que c'est une maladie très compliquée où c'est jamais linéaire, hein, un parcours d'addiction. Et surtout quand on recherche l'abstinence, on peut avoir des moments de rechute, des moments où ça va, où on se sent bien. Donc c'est vrai que pour soi, c'est déjà très, très compliqué et aussi pour l'entourage de le comprendre.
Oui, parce que quand tu dis linéaire, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'en fait, on passe par des... Enfin, je passe... Et je suis passée par des vagues émotionnelles. C'est-à-dire que lorsque l'on est abstinent, on a comme un excès de confiance. Où on se dit, c'est gagné, c'est derrière moi. Et lorsque l'on rechute, ben ça fait mal. Et en fait, le temps de se relever, ben le temps est long. On est dépité.
Démuni un peu.
Ouais, démuni, c'est comme un désarroi
total.
Voilà, c'est comme si on avait fait 5 pas en avant, et là on se dit paf, d'un coup 4 pas en arrière. On est déçu. Mais après, voilà, faut quand même rester optimiste, parce que grâce à toutes les structures, et je suis très heureuse d'être en France parce que on nous offre cette possibilité. Faut tout saisir en fait, parce que
Oui, que ça soit en France, c'est vrai que pour l'addiction, tout ça, c'est gratuit. En tout cas, nous, l'hébergement, etc., c'est gratuit. Vous êtes nourri, logé, blanchi. Et c'est vrai que du coup, ça permet une bonne prise en charge. Il n'y a pas cette inquiétude de financement, de comment je vais faire pour manger, etc. Et du coup, pour travailler, en tout cas, nous, c'est plus serein. Et pour vous, vous permettez d'être accompagné. Vous avez quand même différentes structures où vous tournez. En France. C'est vrai que c'est un plus. Du coup, aujourd'hui, Elodie, ton objectif, c'est de consolider ton abstinence. Donc, ça fait déjà un petit bout de temps que tu travailles durement.
Oui.
Quelles seraient pour toi les étapes clés pour atteindre cette abstinence ?
L'acceptation. Accepter la maladie, reconnaître que l'on est malade, que tout un tas d'événements négatifs découlent de ces consommations, malheureusement. Perte d'emploi, de proches, solitude, la santé aussi. Hein. La santé. Voilà, et le logement aussi. Hein. Enfin, bref, voilà, on n'a plus d'argent, on est seul, on s'isole. Et. Ouais, donc reconnaître que l'on est malade déjà.
C'était la première étape pour toi, ouais. L'acceptation.
Mais entre le moment où l'on se dit « je suis malade, mais ça me va, je suis malade, j'ai envie de changer, je tente de changer », parce que au tout début, je me disais « j'arriverai toute seule hein. ». Et je me disais, alors ça c'était ma phrase, « j'y arriverai un jour, ce n'est qu'une question de temps ». Je l'ai répété maintes fois. Voilà, accepter que l'on est malade. Ensuite, l'introspection, ce que j'ai fait à la communauté. Donc, décrypter un petit peu nos comportements, nos mécanismes de pensée, d'action. Et ça n'aurait pas été possible seul.
Tu as été accompagnée de quel type de professionnel ?
Alors, psychologue, éducateur, bien sûr, hein, c'est très, très, très important parce qu'ils vivent avec nous au quotidien. Et à la communauté aussi, dans cette communauté-là, les professionnels posaient un cadre et on était censé se soigner les uns les autres. C'est-à-dire que tout le monde connaissait tout sur tout le monde. Certaines personnes de la communauté me connaissaient mieux que certains de mes proches. Parce qu'on devait faire des historiques de consommation. Ça, c'était le premier grand exercice. Et on le présentait devant tout le monde.
Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est beaucoup de travaux sur vous-même que vous faites en groupe, en fait. Que vous faites tous ensemble. Et c'est la spécialité, on va dire, d'une communauté thérapeutique.
Je ne sais pas comment les autres fonctionnent, celle-ci.
Oui, en tout cas, celle que tu as fait.
Et on avait même une séance psychologie. En groupe,
Ouais. Ok, en groupe.
Oui, comme ça, chacun pouvait rebondir sur n'importe quel sujet que notre résident exposait.
Oui, c'est ça, vous avez le droit, en fait, de vous appuyer sur ce que la personne va dire et de... Voilà, de...
C'est même au-delà d'un droit, c'est limite, j'ose pas utiliser le mot, mais un devoir, quoi.
D'accord.
Peut-être le terme est peut-être un petit peu fort, mais...
En tout cas, ça t'a fait avancer. Nous, au CTA, on n'est pas du tout sur cette politique-là, on va dire, entre guillemets. On part sur des projets vraiment personnalisés, qui restent uniques à la personne, et on fait un travail individuel avec chacun d'entre vous. Il y a des instances quand même collectives, mais ça reste moindre que les instances individuelles avec chacun de vous.
Mmh, je suis d'accord.
Du coup, pour la troisième étape clé pour toi.
Ah, le changement.
Une grosse étape.
Ouais, super compliqué. Donc le changement, voilà, au-delà de ses habitudes, moi j'ai été obligée de quitter mon lieu de vie à plusieurs reprises, car les souvenirs revenaient, et les habitudes, ça, une pensée, une envie, un craving, une conso. Et ensuite aussi, alors ça j'ai mis du temps à couper contact totalement avec toute personne qui consomme. Voilà, et ça c'est compliqué parce qu'on est quand même des êtres humains avec des émotions. Et voilà, couper des liens, c'est faire le deuil, quoi. Mais bon, étant donné que j'ai fait le choix de faire le deuil du produit, il faut que je fasse le deuil de certaines relations.
Oui, c'est ça, c'est, on va dire, facile à faire quand on parle là un peu de changement, mais c'est une étape très compliquée, c'est ça. Tu parles de changer de lieu de vie plusieurs fois, de couper contact avec beaucoup de personnes, c'est quand même très dur.
Mais oui, et puis quasiment toutes les personnes. En fait, étant donné qu'on avait le même but quotidien, on est ensemble. Et on a autour de nous que des personnes qui consomment. Donc des fois, c'est se retrouver seul. Et comme je le fais ici, grâce au centre thérapeutique, recréer de nouveaux liens.
Et c'est vrai qu'il y a toute il y a cette dynamique de changement autour de votre vie, aussi par rapport... se construire des nouvelles habitudes, en fait, parce que les habitudes que tu avais avant, voilà, comme tu parles, on est humain, on a des émotions, voilà, émotions négatives, on va consommer, ou même pour le plaisir, on va consommer. Maintenant, tu essayes de créer, en gros, de changer tes habitudes et te procurer du plaisir ailleurs, du coup, d'une autre façon. Comment tu fais ?
Alors, j'ai toujours fait énormément de choses, mais là... Maintenant, je reprends le violon, je m'exerce à la peinture, je prends aussi beaucoup de plaisir à concevoir des repas. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Du bénévolat, du sport, du badminton. Voilà, je m'essaie au yoga, méditation.
C'est encore en essai.
Ouais, je suis au tout début.
C'est pas mal. Oui. C'est vrai que nous, au centre thérapeutique résidentiel, du coup, on propose... pas mal de... On est plus tourné vers l'art. On a un partenariat avec la Maison de la Culture. Donc à Amiens, on va avoir différents spectacles. On a des ateliers de peinture, des ateliers d'écriture, des ateliers de musique. C'est vrai qu'on est vachement tourné là-dessus. C'est vrai que toi, tu prends vachement sur tout ce qui est ce côté artistique.
Oui. Voilà. Et ensuite, la persévérance. Quoi. La persévérance...
La dernière étape.
Ouais. Jamais rien lâcher. Même après une rechute, compliquée, vraiment. C'est vraiment compliqué, mais on acquiert des outils et on les a. Il faut savoir s'en saisir et les réutiliser quand il faut, quand on en a besoin. Et pas arrêter de croire en soi, pas se dévaloriser, se culpabiliser de trop. Accepter qui l'on a été, qui l'on est, et se dire aujourd'hui, je ne veux plus être comme ça. Je décide de changer.
Du coup, c'est une forme de détermination, de persévérance. Pour toi, c'est ce qui va faire durer, on va dire... La persévérance va te permettre de faire ton parcours sur du long terme. C'est ce qui va te...
Alors déjà, mon but principal dans la vie, c'est l'abstinence. Parce que tout découle de l'abstinence. Je le répète, c'est une maladie qui nous enlève énormément de choses, voire tout. Donc, ma priorité, c'est l'abstinence. Et ensuite, tout découlera, on va dire naturellement, mais voilà, c'est mon projet principal et je sais que j'y arriverai. Après, je sais que j'ai toujours une épée de Damoclès sur la tête. Donc, pas de pensée permissive en me disant, bon, ben dans 2-3 mois, je pourrais reconsommer une fois. Je sais très bien que ça ne fonctionne pas.
Qu'est-ce que tu entends par une épée de Damoclès, du coup?
Un excès de confiance. L'excès de confiance quand on est dans l'abstinence, en se disant, oh, ben ça fait 2 ans, 3 ans, oh, je peux bien refumer un peu. Non.
Bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure avec la vague émotionnelle. C'est ça, moi, je le vois un peu sous forme de typique, de schéma où des fois on peut être en haut vraiment avec l'excès de confiance que tu parles. Et des fois on peut être vraiment très bas et là, c'est plus compliqué.
Bah, l'épée de Damoclès, moi, je l'image, quoi. Je vois une épée au-dessus de ma tête. Je me dis, bon, pour l'instant, elle ne me touche pas, elle ne me frôle pas. Mais attention.
Elle est toujours là.
Elle est toujours là et attention, tes choix, ils doivent être réfléchis, surtout dans les premiers temps. Pas se mettre en danger, se sécuriser, tout ça. Parce que si l'épée, elle tombe, ben ça fait mal. Ça fait mal et après, il faut se soigner, quoi.
Est-ce que tu aurais des conseils, Élodie, pour les personnes comme toi qui sont en quête de l'abstinence?
Parler. Ne pas avoir honte de ce que l'on est. D'une partie de nous, parce que ça définit pas toute notre personne.
C'est vrai que ça fait partie de l'acceptation que tu as parlé juste avant. Pendant un instant de votre vie ou même un long moment de votre vie, parfois vous vous représentez que par rapport à cette addiction ou les autres vous identifient que par rapport à cette addiction. Ça fait un peu étiquette. Hein. Et c'est vrai qu'après, il faut se reconstruire, apprendre à se connaître et voir qu'en fait, on est autre chose que ça et d'autres choses positives.
Voilà, et savoir demander de l'aide. Moi, j'encourage tout le monde à saisir les clés, demander de l'aide auprès de différentes structures, communautés, cures pour certains sevrages. Voilà. Et puis voilà, j'ai jamais cessé d'y croire parce que. Voilà, jamais cesser d'y croire, pas se renier.
Toi, tu as déjà cessé d'y croire?
Non, j'ai jamais cessé d'y croire. Comme je disais, ma phrase, c'était « j'y arriverai un jour, ce n'est qu'une question de temps ». Mais le temps passe vite, chérie. Donc, plus tôt on s'y attelle, mieux c'est. Non, après, j'ai dit, il y a des moments qui sont difficiles. On me pose la question, est-ce que tu culpabilises? Non, je culpabilise pas, parce que je renie pas qui j'ai été, qui je suis. Et qu'est-ce que je fais? Je décide de plus vouloir répéter tout ça. Je mets des solutions, enfin j'essaie de trouver des solutions et de les mettre en place. Donc non, j'ai jamais cessé d'y croire, mais c'est quand même difficile. Hein. Difficile, sinon je serais pas là ici au centre thérapeutique. Hein.
Oui, mais on est là aussi pour accompagner. Et du coup, nous on vient plus en fin de parcours pour l'extérieur, mais il y avait tout ton travail que t'as fait avant. C'est vrai que c'est beaucoup d'énergie, on donne beaucoup de soi. Comme t'expliquais en communauté thérapeutique, il y avait tout ce travail sur soi-même et se mettre un peu à nu, je dirais, devant les autres, se rendre compte déjà qu'on est malade, c'est vraiment très long.
Et tu dis ça demande beaucoup d'énergie, mais sur des années et des années. C'est long, c'est pour ça, saisissez-vous de ces outils dès que possible.
C'est ça, tu parles des outils que tu as pu avoir dans tes différentes expériences dans les structures ou avec les professionnels ou que toi-même tu as réussi à trouver?
C'est surtout les structures qui me les ont amenées. Ce sont surtout les structures. Parce que moi, dans un premier temps, je fuis tout le temps. Et est-ce que j'ai pas fui aussi la réalité avec la drogue? Bon, et ça, c'est un travail de toute une vie, de tout un chacun, même ceux qui ne sont pas dans l'addiction. Hein, mais voilà.
Merci beaucoup Élodie pour ton partage et d'être présente ici avec moi. C'est très enrichissant pour nous les professionnels aussi d'avoir votre parcours, votre histoire et de partager tout ça avec vous. Merci beaucoup.
Je te retourne le merci Mathilda d'être là. pour nous d'avoir choisi ce métier. C'est super.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos services, nos actions et nos projets, rendez-vous sur notre site internet asoc-lemail.net ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux sous le nom de Association Le Mail. Vous y trouverez plus de détails sur nos services et accompagnements. À très bientôt pour un nouvel épisode de Loin des clichés.
Cette émission est réalisée en partenariat avec Radio Campus Amiens.